Il y a quelque temps, nous avons vu une vérité ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si je vous dis parasite, ça dit des choses. Bzz, bzz. Non ? Ça rend pas quelque chose ? Les parasites ? On avait vu... On avait vu que... J'y arrivais. On avait parlé de Dieu est amour, cette vérité absolue, cette vérité évidente, et qui pourtant des fois en fait dans notre vie n'est pas si évidente. Si on lit un petit peu avec l'Ancien Testament, avec les tu feras, tu feras pas, tu dois pas, c'est un peu difficile de voir derrière tous ces commandements, tous ces il faut faire et il faut pas faire, ces commandements. Quand on donne des ordres aux gens, on le voit très difficilement sous forme d'une expression d'amour. C'est plutôt un acte de sévérité, de dureté, d'autoritarisme. Et pourtant, c'est la Bible. Et on a vu la dernière fois, comme exemple, comme illustration, les 10 commandements, juste avec le regard d'amour d'un père. Pourquoi il a exprimé ses commandements comme il les a exprimés. Et que même quand Jésus il a enseigné ça sur le sermon sur la montagne, chapitre 5, 6, 7 de Matthieu, n'était pas beaucoup plus tendre. Si vous relisez le sermon sur la montagne, Jésus n'est pas plus tendre. Et il disait, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir, pour l'amener à sa pleine révélation, pour la parfaire, pour une meilleure compréhension, parce que pendant des siècles et des siècles, vous n'avez pas compris. L'apôtre Paul dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13 et au verset 9, il dit en effet les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est la version simplifiée des 10 commandements que l'apôtre Paul l'exprime. Il le réexprime, dans Galates, au chapitre 5, 14, où il dit « En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole, dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus, sur le sermon sur la montagne, Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Est-ce que vous voyez la distance quand on lit l'Ancien Testament avec les 10 commandements, tu ne tueras point, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, etc., etc., comme des actions plutôt portées vers l'amour? Alors que là, lorsqu'on le lit dans le Nouveau Testament, toutes ces choses, il est dit, mais en fait, ça veut simplement dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ce qu'enseigne finalement la loi et les prophètes. Si j'aime Stéphane, je ne vais pas le tuer. Si j'aime Kevin, je ne vais pas le voler, même s'il a la clim dans sa voiture. Et Jésus le rappelle encore, Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire dans la compréhension de la Bible. Aujourd'hui, si on recontextualise dans notre compréhension chrétienne de la marche avec Dieu, parler à une personne dehors quand on parle de religion, quand on parle de Dieu, c'est « tu ne dois pas faire » et on voit que des interdictions et des limitations. Évidemment que ça ne donne pas envie. Mais si on recontextualise, tu aimeras ton prochain. Et si on parle d'amour, c'est parce que j'aime mon Dieu que je vais à l'église. C'est parce que j'aime mon Dieu que je me prive de tout ce que je dois me priver. C'est parce que j'aime mon prochain que je vais faire en sorte de faire tout ce que j'aimerais qu'il fasse, tout ce qu'elle aimerait qu'on fasse pour moi, je le fasse pour lui. Enfin, comment s'exprimer ? Que tout ce que les hommes fassent pour moi, que moi aussi, ben, je le fais de même pour lui. Et ce n'est pas... Non, vous savez, dans la population, dans en termes populaires, où on dit, non, mais moi, je ne ferai jamais... j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je ne le ferai pas. Donc, ne fais pas ce que... on ne voudrait pas qu'on te fasse. Ça, c'est une chose. Mais son contraire, ce n'est pas tout ce que tu aimerais que l'on te fasse, toi, fais de même. Parce que tout ce que tu aimerais que l'on te fasse, fais de même. Ça, par voie de conséquence, m'encourage à aller à la rencontre de Stéphane, de le connaître, de savoir ce que lui, il aimerait que je fasse, qui lui ferait plaisir. Et c'est ça, l'amour. C'est dans la pensée de Dieu. C'est dur de voir les 10 commandements, voire même l'Ancien Testament, avec ce regard-là. Mais pourtant, quand on présente la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un Dieu d'amour qu'on présente. Et que pendant tout notre, dans notre nature humaine, dans notre conception, et parce que le monde a été tourné comme ça, même encore beaucoup plus aujourd'hui, où tout est sur le mérite, où tout est sur l'autorité, où on écrase, où tout est sur la rivalité, et tout est centré sur soi. C'est pour ça que la réalité d'un Dieu est amour, c'est difficile. On le sait dans notre tête. Mais il nous faut le réaliser de plus en plus dans notre cœur. Dieu est amour, c'est évident. Mais pas si évident. Une chose aussi qui fait que on a un peu de mal avec cette vérité si évidente, c'est aussi, je pense, cette vérité de l'amour. Vous savez, notre monde, elle a beaucoup, je dirais, fait nuancer la définition de l'amour. Aujourd'hui, par exemple, les gens diraient, parce que le mot, ah ouais, j'aime bien le foot, j'aime bien les biscuits. Maintenant, on veut élever le niveau, du coup, on dit, j'adore les biscuits, j'adore le foot. Parce qu'on élève. Et on fait perdre le sens de ces mots. On fait perdre la valeur de ces mots au fur et à mesure. Et ça, c'est parce que le monde voudrait encore être superlatif, hyperbolique. Il faut toujours du plus au plus. Le cantique des cantiques. Le roi des rois. Le meilleur des meilleurs. C'est gavé bon. Je ne connais pas les expressions. J'ai perdu ma jeunesse. Chocolatine. Je vous propose ce soir de redéfinir, de redécouvrir l'amour au sens biblique. Et c'est l'apôtre Paul qui va nous en parler. Dans 1 Corinthiens 13, vous le connaissez? Vous faites vos déclarations d'amour comme ça avec 1 Corinthiens 13? On va se déclarer l'amour avec 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 4. Je le lirai dans la version Semeur. Parce que ces temps-ci, je suis en lecture, traduction Semeur. Et je trouve que pour un petit peu digérer les paroles, ça parle plus. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance. Il espère. Et il persévère. Ce mot amour, c'est le même qui est utilisé pour dire tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous propose de refaire cet exercice. Et cette fois-ci, chaque fois, vous allez penser à l'adjectif ou à la notion qui est évoquée par rapport à l'amour et repenser à une situation de Jésus dans votre vie. Exemple, l'amour est patient. Jésus est patient. À quel moment dans votre vie personnelle il s'est montré patient? D'accord? C'est chacun personnellement. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Voici aussi comment Jésus exprime encore aujourd'hui son amour envers nous. J'ai un autre exercice avec vous. Pour ceux qui ne l'ont pas, procurez-vous ça. C'est dans la bibliothèque. C'est la version QN, selon comment vous les prononcez. C'est une transcription, ça met plus, alors c'est un peu plus faux dans la traduction littérale, mais ça met plus l'idée de ce que veut dire. On met plus en avant l'esprit. Et je voudrais juste, en fait, lire la transcription QN, la parole vivante. Et vous allez voir pourquoi. Au début, j'avais un autre type d'exercice, mais là, je voulais juste, je me suis dit, au moins là, je vais viser personne avec la transcription QN. C'est juste vous par rapport à vous. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et s'est réjoui lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. C'est incroyable. Je suis juste, moi personnellement, très, très, très loin de cette réalité-là. Mais ça, c'est l'idéal. C'est là où on doit se diriger. On n'est pas là. On est en plein processus d'amour et on apprend à aimer. Sinon, si on savait aimer, Dieu n'aurait même pas à dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu m'aimeras. » Est-ce que je dis à Stéphane qu'il a besoin de manger le midi ? Il le fait naturellement. Ce n'est pas un commandement. Est-ce que j'ai besoin de lui dire d'aller au lit le soir ? Il le fait naturellement. Et puis, ce n'est plus un enfant. Mais Jésus, la parole de Dieu, nous demande d'aimer notre Dieu. Pas n'importe comment, de tout notre cœur, notre pensée, toutes nos forces, et d'aimer notre prochain, Kevin, Stéphane, le pasteur, etc. Enfin, Magali, c'est pas etc., mais c'est Magali, vous avez compris. C'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, dans la mentalité, dans tout ce qu'on peut penser aujourd'hui, c'est un amour égoïste, centré sur moi. S'il m'aimait vraiment, en fait, il saurait ce que j'aime. Il me ferait plaisir automatiquement. Il lirait dans mes pensées. Il contribuerait à mon bonheur. C'est ça l'amour, selon le monde. Selon les désirs charnels des gens. Et auxquels peut-être même encore aujourd'hui, nous, chrétiens croyants, aussi, on a cette conception. Faussée. C'est pour ça qu'il est important. C'est pour ça qu'on prend même le temps de lire, même lentement, ces passages. Pour se dire, voici, c'est quoi l'amour ? Pour donner un peu plus de relief, j'aimerais juste qu'on relise le contexte. 1 Corinthiens 13 donne la définition de l'amour dans son verset 4. Mais remettons dans le contexte, c'est-à-dire lisons un peu ce qui se passe avant, un peu ce qui se passe après. Verset 1 à 3. En effet, supposons que je parle les langues, je reviens dans la version sommaire, je crois. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Mais vous imaginez ce que c'est ? Aider les pauvres, prophétiser, connaître la Bible par cœur, être un super docteur de la loi, avoir la connaissance jusqu'au iota près. Avoir toutes ces compréhensions. Mais si je n'ai pas l'amour, Paul le dit, cela ne me sert à rien. Si même j'ai la foi, et on est des chrétiens, on marche par la foi, mais si j'ai la foi qui me fait déplacer les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est pour cela que souvent je me fais un bilan, je me dis, pourquoi tu fais les choses ? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu fais ce que je fais, qu'importe ? Est-ce que c'est vraiment par amour pour Dieu, par amour pour mon prochain ? Ou est-ce que c'est d'autres raisons que ces raisons-là ? Parce que souvent on peut faire l'amalgame. Parce que souvent, on marche et la tête dans le guidon, on oublie de se poser, de se dire « Mais pourquoi je fais les choses ? Est-ce que c'est vraiment pour toi ?» Parce que la vérité, c'est que c'est vrai. On fait vraiment les choses pour Dieu. Mais des fois, on a des fois la tête tellement dans le guidon qu'on oublie qu'on le fait par amour pour Dieu. Ça vous est jamais arrivé ? De faire des choses par habitude. Et puis, pour vous, c'est évident. Par exemple, dans le couple, c'était évident plein de choses. Puis les années passent. Et en fait, finalement, même si on fait les mêmes choses, il y a moins d'intentionnalité. Et puis, ça devient routinier. Il n'y a plus de signification derrière. Pourtant, on fait les mêmes choses, les mêmes attentions. Mais derrière, ça devient vide de sens. Je parle de couple, ça arrive dans l'amitié, ça arrive dans la relation de manière générale. Pourquoi faisons-nous les choses ? Verset 8, la suite de la définition, c'est « L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. » Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. On n'est pas en train de dénigrer ni la foi, ni l'espérance. On est juste en train de dire que l'amour, c'est l'essence même. La nature même de Dieu, c'est l'amour. Si Jésus s'est fait homme, c'est par amour pour nous. Si Jésus s'est donné à la croix, à accepter l'humiliation, les crachats, c'est par amour pour nous. Si Dieu a fait tout ce qu'il a fait, ce plan divin, son plan rédempteur, c'est par amour pour Kevin, pour Hilary, pour Dominique, pour Sabine. Et c'était pas du tout confortable. Mais ce dont on avait besoin, c'est d'être racheté. Et de redécouvrir, parce que l'acte rédempteur de Jésus-Christ, c'était pour la réconciliation, pour découvrir ou redécouvrir le Père, pas le Dieu fouettard de la pensée populaire d'aujourd'hui, mais pour découvrir le Dieu d'amour. Aujourd'hui, des fois, on fait un petit peu le strict. Vous savez, celui qui a écrit l'épître, la définition de l'amour, c'est Paul. C'est pas n'importe qui. C'est celui qui avait la connaissance. C'est celui qui connaissait la loi au pied de Gamaliel, le rabbin des rabbins. C'est celui qui, par son zèle, aller persécuter, tuer la secte des chrétiens pour l'amour de Dieu, croyant que c'était bien ce qu'il faisait, aveuglé par son ego, sa connaissance, jusqu'à ce qu'un jour il soit percuté par l'amour du Christ. Et là, sa vie a changé. Celui qui croyait être sur le bon chemin, un jour a été percuté par l'amour du Christ. Et ça la transforme. Et croyez-vous que l'apôtre Paul était encore parfait une fois percuté par l'amour? C'est tout un processus. Au fur et à mesure, il a appris à aimer. Quand vous regardez les lettres de Paul, tout ce qu'il a vécu, même dans le livre des Actes, entre trahison, les gens qui l'ont abandonné, les siens qui l'ont persécuté, rejeté, jeté en prison par injustice. Et ceux qui l'ont trahi, c'était pas les juifs de loin, c'était ses collaborateurs. C'était des Démas. C'était des Alexandre le forgeron. Et il a appris à aimer dans tout ça, à endurer. Et c'est celui-là même qui a fondé l'église de Corinthe. Et qui pourtant, il dit, oui, mais Corinthe, c'est trop bien, parce que franchement, vous avez la connaissance, c'est trop bien, il y a tous les dons chez vous, il ne vous en manque aucun. Si vous relisez les épîtres aux Corinthiens, c'est ça. Et ensuite, après, ça part dans tous les sens, parce que du coup, ben oui, moi, je préfère Apollos. Moi, je préfère Céphas. Ah, moi, je suis un super spirituel. Moi, je suis Christ. Moi, c'est Christ, personne d'autre. Et puis là, l'apôtre Paul, dans sa lettre, il est obligé de dire... Ok les gars, vous avez la connaissance, bonne communion, mais des fois ça part un peu dans tous les sens, et il faut un petit peu recadrer tout ça. Et il rappelle toutes ces choses. Dans le chapitre 12, juste avant, si on doit revenir encore dans le contexte, il parle du corps de Christ, à quel point chacun est important, du plus jeune au plus vieux, de celui qu'on considère comme le plus insignifiant au plus important. Tout le monde est important aux yeux du Christ. Pour changer cette mentalité. Parce que l'amour, c'est ce qu'il définit dans 1 Corinthiens 13. Et c'est là que ça prend toute l'ampleur. Encore plus de relief. Et là, j'ai pris que Corinthiens. Souvent, on peut faire tellement de choses pour Dieu, pour les gens. On peut se donner. Ça me rappelle des fois ce texte dans Matthieu, toujours sur le sermon sur la montagne, c'est presque sa conclusion, où Jésus dit au verset 21, chapitre 7, pardon, Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois des gens qui chassent les démons au nom de Jésus, guérissent les malades, je trouve ça quand même extraordinaire. Je dis, ouais, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu, c'est waouh. Et Jésus dit, c'est pas Seigneur, Seigneur, ceux qui vont faire les choses à mon nom, mais qui, en fait, au fur et à mesure de leur marche dans la foi, ils ont créé leur propre conception. Mais ils se sentent approuvés parce que vraiment, ça se passe. Il y a des guérisons, il y a des démons qui sont chassés. Les œuvres que l'on fait, ça porte du fruit, et etc. Mais en fait, ils passent juste à côté de ce que Dieu demandait. Et c'est quoi la volonté de Dieu ? À se retrouver dans les deux premiers commandements, les deux commandements les plus importants, pardon. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi nous sommes faits, c'est pourquoi nous avons été tirés de la terre. Nous avons été créés pour aimer, parce que Dieu est amour. Ça ne veut pas dire qu'on fait mal quand on fait des œuvres pour Dieu. C'est juste que des fois, on est un peu moins exact quand il manque l'ingrédient de l'amour dans ce qu'on fait. C'est ce que la parole de Dieu aussi un peu évoque dans l'Apocalypse chapitre 2, quand il dit aux Éphésiens, oups, j'ai dépassé le temps. Je vais remettre une horloge. Dieu dit, je connais ta conduite. Merci. Pardon, verset 2. Chapitre 2, verset 2. Je connais ta conduite. La peine que tu prends est ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Il dit des bonnes choses. C'est positif ce qu'il dit. C'est pas mauvais. C'est pas des mauvaises personnes. Ce n'est pas des mauvaises personnes qui disent ça. Par contre, il veut juste soulever un point sur lequel il faut juste travailler. Ce point, c'est « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, sur lequel on doit veiller. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est bien ce qu'on peut faire pour Dieu. C'est bien beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas qu'on est... Mais dans une culture où beaucoup on est dans la productivité, il faut produire des résultats, il faut être efficace, parce qu'il y a des promotions, il y a des carottes, salaires, où il faut faire vivre l'entreprise, etc. Quelque part, on apporte cette mentalité, cette manière de penser dans l'église, en fait. Mais la touche qui nous est demandé, sur lequel Dieu pourrait pointer du doigt, ce serait cet amour. C'est pour ça que notre culte personnel est super important. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle de pourquoi on fait les choses. Parce que Dieu aussi, c'est parce qu'on prend le temps de communier avec Dieu. C'est pas juste un acte religieux. C'est pas juste dire merci Seigneur Jésus pour cette journée, je te prépare ci, tu prépares ça, etc., machin chouette et tout. mais c'est de prendre le temps de la relation avec le Père. Ce pourquoi Jésus est descendu sur la terre. Oui, on fait des œuvres, et c'est bien, parce que nous sommes aussi ses disciples. Mais une chose qu'on oublie aussi des fois, c'est que nous sommes aussi enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés, invités, encouragés à découvrir notre Père céleste, pas un Dieu fouettard. Alors qu'on puisse croître dans l'amour. Seigneur, combien de fois j'ai fait les choses de manière mécanique? Ou combien de fois j'ai oublié? Ou combien de fois j'ai peut-être chanté, loué à vide? Combien de fois j'ai pu peut-être te servir sans penser que je faisais pour toi aussi? Seigneur, ou combien de fois? Et je te demande pardon. Seigneur, révèle-moi ton amour. Donne-moi à faire. Non pas parce qu'il faut faire, mais par amour pour toi. Donne-moi à voir comme toi tu me vois. Donne-moi à aimer comme toi tu m'aimes. Donne-moi à m'aimer comme toi tu m'aimes. Donne-moi à te découvrir encore beaucoup plus. Donne-moi à ce que ma conception de l'amour, ma définition de l'amour soit de plus en plus exacte, alors que nos regards sont plongés dans ta parole. Seigneur mon Dieu, qu'on puisse te découvrir, non pas avec un regard de loi, mais avec un regard de la grâce. Seigneur, cette vérité que tu es amour, cette vérité que tu es un Père, nous voulons tout pleinement le découvrir, le redécouvrir, encore plus et encore plus, afin que les choses que nous faisons pour toi soient aussi pleines de sens. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta patience. Merci parce que tu es cet amour qui persévère avec nous. Cet amour qui est patient. Cet amour qui ne cherche pas son intérêt. Cet amour qui est plein de bonté envers chacun d'entre nous. Et Seigneur, merci. Merci encore pour tout. Amen. Amen.